Abbaye d'Ardennes, avec Pierre Guyotat, jeudi 9 mars, 20h15. Parmi les différents extraits des films que vous avez choisis, vous m'avez semblé accorder à Rossellini une place un peu plus particulière. Vous avez manifesté une sorte d'affection pour lui. Pourquoi ?
Je l'ai déjà évoqué il y a très longtemps, dans Littérature interdite, en 71, 72. J'ai dit qu'il était un des cinéastes que j'avais découvert en arrivant à Paris. Et Rossini pour plusieurs raisons, pour des raisons historiques évidentes, parce que Rossellini est le cinéaste de l'après-guerre. Donc, de toutes ces figures, soit de ces figures d'enfants, il y en a beaucoup, les figures d'enfants, Allemagne a des héros, etc. Enfin, sont des figures, évidemment, avec lesquelles je ne peux que m'identifier, bien entendu. Et aussi parce que les personnages adultes dans les films de Rossellini qui traitent de l'après-guerre sont très proches des figures que j'ai connues, des figures adultes que j'ai connues, à commencer tout simplement par ma mère. Je veux dire que le personnage d'Ingrid Bergman, c'est un personnage extrêmement proche de ma mère, dans les films que Rossellini, qui était son époux à un moment donné, lui a fait jouer. Et donc pour moi, même la famille de Rossellini, c'est une famille qui m'est au fond très proche, aussi parce qu'on voyait, ils avaient une vie agitée, mais qu'étant un cinéaste de vraiment très intérieur, comme c'est un homme d'une immense intelligence, il a aussi magnifiquement traité de l'histoire, et quelle histoire, l'après-guerre, mais d'une façon extraordinairement souple et presque sans intention, sans signaler tout ça, d'une façon naturelle, voilà, et donc ce personnage, Ingrid Bergman, et donc leur vie était assez, quand ils ont divorcé par exemple, on voyait les images de leur divorce, de leur rupture, de leur première rupture, tout ça, avec les enfants sur des aéroports de l'époque, l'aéroport de Rome, de Paris ou ailleurs. Et moi, ça me touchait beaucoup. C'était dans les années... je n'avais jamais vu un aéroport de ma vie, bien entendu. Un avion de ma vie, j'étais complètement... Nous étions des ruraux. Bien que non paysans, nous étions des ruraux. Donc j'avais aucune idée de ce que c'était. En tout cas, ces images étaient des images qui, moi, me touchaient beaucoup, en tout cas. Pour moi, c'est un ensemble, Rossellini. Et en plus, bien entendu, quand j'ai vu, je me souviens encore maintenant, de la première fois que j'ai vu Stromboli, par exemple, c'est-à-dire dans la fin des années 50, oui, à la Cinémathèque de la rue d'Ulm, où j'ai vu tous les films possibles à cette époque-là, trois par jour, souvent, avec beaucoup de gens qui sont maintenant devenus des cinéastes importants. Et ce Stromboli là m'a énormément bouleversé. Parce que pour moi, ça a été, sur la question de la fiction par exemple, l'organisation de la fiction, ou même la thématique, comme on dit, de la fiction, ça a été pour moi un bouleversement complet. Beaucoup plus que tous les romans, disons, modernes que j'ai pu lire, enfin toute la... Là, j'ai trouvé qu'il y avait une, pour moi, à cette époque-là, en 59, je crois, il me semble, oui, j'ai vu une fiction qui m'a, un système de fiction qui m'a d'abord énormément qui m'a énormément intrigué, qui m'a même beaucoup exaspéré. Et puis je l'ai revu plusieurs fois la semaine suivante, et ça a été très important pour moi. Dans la formation de mon, peut-être de mon système de fiction, ce film-là, particulièrement Stromboli, voilà. Donc c'est un cinéaste qui est très important pour moi, et je trouve que tous ses films sont magnifiques, tout, Païssa, bien entendu, et ce film magnifique qui est un film un peu baroque, assez proche de Stromboli, je trouve, aussi parce que l'actrice, c'est toujours... Ingrid Bergman, c'est Europa 51, qui est un film magnifique, étrange, qui serait impossible aujourd'hui, je reste, je crois, beaucoup de scénarios seraient refusés aujourd'hui par les producteurs. Tous les scénarios de Wells se seraient refusés, ces scénarios comme Europa 51 seraient refusés, Shakespeare serait refusé. Shakespeare aurait présenté un canevas, il aurait été immédiatement refusé. Ben, ce sont tous des artistes de la grandeur de l'homme, bien entendu. Traiter la grandeur de l'homme suppose qu'on touche à des choses auxquelles il ne faut pas toucher aujourd'hui, bien entendu. Bon, bref, Europa 51 est un film de ce genre aussi, où l'histoire est présente, mais aussi la question sociale, la question de l'engagement, la question des classes, d'une certaine façon, mais sur un plan et à une profondeur telle qu'on est très loin quand même de la problématique marxiste sèche. Voilà. C'est l'histoire donc de cette femme de la bourgeoisie, en fait, une femme un petit peu frivole, comme ça, qui a un enfant et qu'elle néglige un peu, et qui, après la mort de cet enfant, la mort accidentelle, ou suicidaire de cet enfant, dans l'escalier de la maison, s'engage petit à petit auprès des ouvriers, du prolétariat, ou du lumpen prolétariat. C'est un film extraordinaire, car elle est donc, son engagement est considéré comme une folie. Et donc pratiquement toute la société, sauf ceux qu'elle a aidés, sauf ceux vers lesquels elle est allée, c'est-à-dire les pauvres et les très pauvres, tous la rejettent. Elle envoie en maison de santé. Son mari, sa mère, tout le monde. Sauf ces gens qui viennent la voir ou presque la saluer avant son, en quelque sorte, ce séjour qu'on imagine sans fin en psychiatrie. Donc c'est un film qui m'a touché sur plusieurs plans, disons. Voilà. Mais c'est un film d'un extraordinaire culot, quand même. C'est impensable. C'était déjà difficile aujourd'hui, à l'époque, parce que c'était une époque déjà très marxiste. En Italie, c'était très... Hein. Et aujourd'hui, c'est impensable. Mais c'est proche de Stromboli, par cette fiction baroque où on suit un être jusqu'au... un être humain. Pas une femme, un être humain qui se trouve être une femme. Mais quelle femme, c'est Bergman. C'est comme un Gréco, c'est ces personnages, ces figures sans fin, dans lesquelles on peut introduire une fiction sans fin, donc qui s'allonge comme des figures de Gréco.
Extrait de Stromboli, de Roberto Rossellini.
They don't know what they're doing. I'm even worse. I'll save him. Understanding and the courage.
God. Oh, God. Oh, my God. Merciful God.
Est-ce que vous diriez, par exemple, que Dreyer est un cinéaste de l'âme?
Oui, mais tous les grands artistes sont des... Et que l'âme vient de anima. Ce sont des vieilles choses que plus personne ne sait ou ne dit, ou n'ose dire. Le souffle. Ce qui fait qu'il faut du souffle. Le souffle et l'âme, c'est pareil. C'est pour ça que c'est si dur de faire de l'art, bien entendu. Mais il y a des gens qui, Dreyer, mis de l'âme et de l'art dans un merveilleux court-métrage, qui est un court-métrage qui lui a été commandé, je crois, par une municipalité, je crois, quand il était très pauvre, c'est-à-dire pratiquement toute sa vie. Et je crois que, ouais, c'était commandé par, je ne sais pas, peut-être par la sécurité routière ou la lutte contre l'alcool, je ne sais pas. Ce film magnifique qui en français s'appelle Ils ne passèrent pas le bac. Et ils ne passèrent pas le bac, pas le baccalauréat, mais le bac qu'on traverse pour aller d'un endroit à un autre. Il y a autant d'âmes là-dedans que dans Dies Irae ou que dans Ordette. Où là vraiment c'est l'âme qui est le personnage principal. Ou des croisements d'âmes, disons. Les carrefours d'âme. Et là, il ne s'agit de rien du tout. C'est un jeune couple en moto qui fonce sur la route et qui est dépassé par une petite voiture. Une petite voiture un petit peu carrée avec un petit bonhomme ricanant dedans. Et il se double et il se redouble, je crois. Et on ne le voit pas, mais la moto va dans le décor. Et après, c'est une sorte de cercueil en surimpression qui traverse le bac à leur place. C'est un film admirable. C'était censé, je crois, dissuader les automobilistes danois de boire ou de mal conduire, je ne sais pas très bien.
Extrait de Dies Irae de Karl Dreyer. 1943.
Hun forlanger at tale med.
Wer Huden drückt, Herrn erbarmherzig, haben gehört in eine Szene, auch wenn es in Seel versünden. Ihr
Hüdegger, Anne, hör euch! Ihr Schlag vor Randfeuer!